Si le Dieu soit béni, bonjour à tous et à toutes. Alors, on va commencer par la prière. Puis même si après, appeler l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui instruis le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Jésus, doux et humble de cœur. Ô Marie, conçue sans péché. Alors, est-ce que il est nécessaire, je pense pas encore que, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler le charisme de la garde d'honneur où c'est clair pour tout le monde? Tout le monde a bien en esprit, voilà, c'est clair. Ouais. Alors, j'ai eu une petite demande avant de continuer la ligne d'humilité, ce qui nous regardait la dernière fois. On va continuer dans cet abîme d'humilité, hein, de nous plonger quand on pose des actes d'orgueil. Et voilà, on m'avait fait une petite demande, comme vous le savez, le mois de novembre est consacré à la prière, hein, pour Sainte Marguerite Marie, elle les appelle ses amies souffrantes, hein, les âmes du purgatoire. Alors, il est vrai qu'on arrive à la fin du mois, mais voilà, il n'est pas trop tard d'en parler, en sachant que la Sainte Église, à chaque Eucharistie, chaque messe, prie, intercède, hein, pour les âmes du purgatoire. Alors, je ne compte pas faire quelque chose de très long sur le purgatoire, mais peut-être que vous avez vu dans certaines revues, alors France catholique, voilà, on apercevait ça là, et puis aussi. Je crois, l'Homme Nouveau, qui fait actuellement de la publicité pour ce qu'on appelle le manuscrit du purgatoire, qui est édité par les Sanctuaires de Montlignon. Et alors, nous, on nous l'a offert, alors je vous partage, on partage nos petits biens, comme dit notre saint fondateur. Et du coup, au repas, nous, on mange en silence et on écoute la lecture. On nourrit nos corps, mais on nourrit aussi nos âmes. Et on écoute, donc, une sœur fait la lecture de ce manuscrit du purgatoire. Et en somme, c'est une religieuse qui reçoit des communications d'une de ses sœurs décédées et qui est au purgatoire et qui, par grâce de Dieu, elle a la permission de lui parler. Parce que là aussi, on ne communique pas avec les âmes du purgatoire. Il ne faut pas se tromper avec tout ce qui est le spiritisme, hein, les communications avec les esprits. Le purgatoire, ce n'est pas ça, ce sont les âmes, ce n'est pas des esprits. Et voilà, donc elle a une permission de Dieu, et toujours quand c'est permis, ça arrive par exemple chez les saints, vous avez Josefa Menendez par exemple, qui dans sa grâce, hein, dans sa vocation, elle ira faire des visites, elle est kidnappée pour aller faire des visites en enfer, et c'est comme la grande sainte Thérèse par exemple. Sainte Faustine n'ira jamais au paradis, mais uniquement en enfer. Le Seigneur lui dira pourquoi. Parce qu'un jour, on doutera de son existence, tu pourras dire qu'il existe. Donc les saints vivent, hein, dans leur vocation des particularités, on va dire, qui aujourd'hui nous servent. Parce que le purgatoire n'est pas décrit, ou très peu, en tout cas dans l'écriture sainte, l'enfer si, mais pas le purgatoire. Et du coup, voilà, ça permet d'apporter des compléments, on va dire, hein, pas pour nous faire peur, parce qu'on va voir que le purgatoire, c'est une miséricorde, et parce que sans purgatoire, ben, qui irait au paradis, on va dire, hein. Donc il faut le voir plutôt comme, enfin, il faut le voir avec justesse comme une miséricorde, et c'est une miséricorde. Et ce dialogue qui se vit avec ces deux sœurs, cette âme qui est au purgatoire et cette sœur qui continue, c'est une Augustine qui continue, alors elle est professeure, eh bien, est très enrichissante, pas tant pour ce qui se passe au purgatoire que pour tous les conseils spirituels qu'elle donne, hein, pour justement, vivre au plus sérieux, enfin au plus juste de ce qui nous est demandé en tant que baptisés. Donc voilà, c'est le manuscrit du purgatoire, c'est pas très épais, édité par les sanctuaires de Montlignon. Hein, ça a quand même la primature de quelques évêques. Après, c'est sûr, ça reste et ça relève de, ben voilà, de révélations privées. Mais voilà, c'est pas un dogme, on n'a pas d'y croire, si au purgatoire, mais pas à tout ce qui va être dit. Mais ça, en tout cas, ça peut qu'éveiller, en tout cas, notre amour à faire bien les petites choses. Et pourquoi, je vais vous lire ça tout à l'heure. Alors, là, je vous tire une petite explication assez brève et puis dense et concise du père Sineux qui fait un ouvrage sur l'initiation à la somme théologique de saint Thomas et dit, dans cette somme, il parle du purgatoire et il dit ceci. Partagé entre le sentiment très net de son indignité et une confiance indéfectible en la clémence divine, l'âme humaine, au sortir de ce monde, implore un délai et un moyen d'achever sa purification. Alors, je connais mon iniquité et mon péché est toujours devant moi. Mais mon Dieu, aie pitié de moi dans la mesure de votre immense miséricorde. Achevez de me laver de mon crime et de me purifier de mon péché. Voilà un verset du psaume 50 qui illustre bien la démarche de l'âme qui demande à être purifiée, l'âme qui quitte son corps. C'est l'âme elle-même qui réclame le purgatoire. Ça, c'est deux fois. Hein. C'est pas Dieu qui punit l'âme. S'il n'existait pas, elle supplierait Dieu de le créer, le purgatoire. La nature des peines du purgatoire se déduit de l'état des âmes qui y sont détenues. La raison pour laquelle une âme est arrêtée en purgatoire, c'est qu'elle ne mérite pas encore de jouir de la vision béatifique. Elle est donc séparée de Dieu. On ne la dit point damnée cependant, car la douleur qui résulte de cette séparation est bien différente de celle qu'éprouve le vrai damné en enfer. C'est la souffrance de l'exilé qui rêve de la patrie, mais voit toujours se dresser la frontière qui n'a pas la force de franchir. La souffrance d'un être aimant qu'une conjoncture inexorable retient loin d'un être très aimé. En ce sens, l'âme du purgatoire souffre de la privation de Dieu. Dans ce manuscrit du purgatoire dont je vous ai évoqué, ça revient sans cesse. On ne voit pas Dieu et on désire voir Dieu et on ne le voit pas. Voilà. Et c'est une souffrance. L'âme du purgatoire souffre de la privation de Dieu, peut-être plus que le damné, qui lui n'a plus aucun désir de Dieu, le hait et le fuit délibérément. C'est ça la différence. C'est pour ça que c'est une miséricorde, mais nous savons pour le purgatoire que c'est passager. C'est pas l'éternité qui vivra ici. Par contre, alors que l'enfer ne laisse plus aucune espérance, le purgatoire donne la certitude du bonheur éternel. On est fait pour le bonheur. Donc on ne peut qu'aspirer à cette purification. Et ce n'est pas seulement la perspective de voir bientôt finir les tourments qui apporte un réconfort. En attendant, l'âme endure sa souffrance avec une sorte d'allégresse parce qu'elle y trouve le secret de se rendre enfin digne de Dieu, de lui fournir dans un sacrifice joyeusement accepté une preuve d'amour sincère qui répare les tiédeurs de sa vie terrestre. Si tempérée qu'elle soit par cette résignation sereine, les douleurs du purgatoire ne laissent pas d'être cruelles, et d'autant plus senties que les âmes, maintenant séparées de leur corps et dotées de la grâce sanctifiante, sont aussi plus affinées. La souffrance, on la sent plus. Et puis, ce n'est pas une souffrance qu'il nous faut comparer. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire peur à imaginer des souffrances du purgatoire. Moi, pour moi, ça relève du péché d'imaginer ça. Pourquoi? Parce qu'on va réagir avec un corps. Hein, et là, on parle de souffrance d'âme. Ce n'est pas votre corps qui souffrira au purgatoire. Hein. Et puis, les âmes qui. Et là, je vous lirai un petit exemple, un petit témoignage de Sainte Marguerite Marie, parce que c'est pour ça que je prends un petit peu comme 10 minutes, on va dire, de temps pour expliquer le purgatoire et puis ce qu'on y vit et pourquoi la dévotion au Sacré-Cœur nous lie à celle de la délivrance des âmes du purgatoire. Hein. Toutes celles qui ont une approche du Sacré-Cœur, Sainte Marguerite Marie, Sainte Faustine, Josapha Ménendez, elles ont toutes une vocation de délivrer les âmes du purgatoire. Pourquoi c'est lié au Sacré-Cœur? C'est permettre à une âme de voir Jésus au plus vite, donc de lui donner, de lui partager en somme les mérites du Christ, celle de la rédemption, pour hâter sa venue, hein, pour hâter cette vue qu'elle désire, hein, jouir de Dieu. Et qu'est-ce que le Sacré-Cœur, hein? C'est le cœur du christianisme, c'est la rédemption, le Sacré-Cœur. Hein? Partage de la mort et résurrection du Christ. Alors, on ne peut pas non plus parler de lieu, c'est un état. Et on ne peut pas non plus, même si les âmes, d'abord elle le dit toujours dans le manuscrit du Purgatoire, elle dit pour se rendre compréhensible à la personne qui est sur la terre, elle parle d'années ou de jours, plutôt d'années, et bien qu'elle reste au Purgatoire. Mais comme c'est un état, on est hors du temps. Le temps, c'est pour nous, c'est pour la terre. Hein. Alors, puis quel est le lieu de cette expiation et quelle en est la durée? Autant de problèmes insolubles, mais n'est-il pas indispensable que l'au-delà garde une grande part de mystère? Ce lieu ne peut être connu et décrit comme un coin de notre univers visible. Et cette durée ne peut pas se mesurer comme notre temps. La foi qui nous en révèle les traits essentiels ne nous les représente pas dans le détail. Ne nous suffit-il pas de savoir que le purgatoire est un état de souffrance expiatrice proportionné à la culpabilité de chacun et déterminé par la justice de Dieu? Voilà, je pense qu'il nous faut vraiment rentrer dans ce mystère de la miséricorde, que Dieu fait tout pour notre bien. Voilà. Et puis juste, parce que je sais qu'il y a des petites choses qui se disent à ce niveau-là et qui ne sont pas justes par rapport à justement ce que je viens de vous dire, qu'elle souffre de ne pas voir Dieu. Et on entend que quand on meurt, la séparation de l'âme et du corps, à ce moment-là, on voit Dieu et on va se mettre au purgatoire où là on le renie et on est jeté en enfer. On ne voit pas Dieu. Si on voyait Dieu, on serait pur, on n'aurait pas besoin du purgatoire. Hein. Par contre, au moment de la séparation du corps et de l'âme, là, on a cette science, cette intelligence qu'ont les anges, hein, de se voir de façon instantanée dans tout ce qu'on a pu faire du début jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est d'après cette vision, cette intelligence infuse, qui fait qu'on pose un choix d'aller se faire purifier au purgatoire ou de se jeter en enfer. Hein. Mais c'est seulement après le purgatoire qu'on verra Dieu. Hein. Voilà. Alors, vous serez peut-être avec moi de cet avis. Moi, en toute simplicité, hein, comme on est en famille, eh bien, moi j'envisage, je me dis, bah oui, dans sa miséricorde, le Seigneur peut-être que j'irai au purgatoire, mais en tout cas, de mon vivant, je fais tout pour envisager le paradis sans passer par le purgatoire. Il nous faut avoir cette audace de l'amour, hein, qui croit en justement, en la valeur. Alors, ce que vous allez peut-être avoir au fond de votre cœur monté cette idée, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour. D'une part, pour délivrer une âme du purgatoire, pour soulager une âme du purgatoire, et puis pour moi, de fait, ça ne me dit pas grand-chose, même si c'est une miséricorde de Dieu de passer au purgatoire, j'aimerais autant le voir tout de suite, quoi. Parce que j'ai passé, en tout cas, moi, je ne sais pas si vous êtes dans mon cas, moi, toute ma vie, du coup, elle n'est pas très longue, mais voilà, depuis que je suis sur la terre, moi, j'espère qu'à le voir. Et d'autant plus quand on est religieuse. Donc, rajouter encore le purgatoire, ça va encore me faire attendre. Moi, bon, j'ai pas trop envie, quoi. Et donc, voilà la démarche. Hein. C'est sur la manière dont on vit. Est-ce qu'on vit les yeux fixés sur cette espérance, cette béatitude qui nous attend, cette vision béatifique, ou c'est vivons bien, nous mourrons gras. Enfin, je veux dire, si c'est, voilà, tout ce qu'on fait, on y est attaché, on passe son temps à planter sa tente, à construire, à s'installer. Normalement, un chrétien doit juste effleurer la terre. Hein. C'est pas notre demeure éternelle, la terre. Alors, chef, je suis complètement en contradiction avec ce que vous entendez, mais c'est pas grave, j'aime bien choquer. Mais non, il faut garder cette. On est fait pour lui, et tout ce qu'on va faire aujourd'hui nous prépare à le voir. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on est garde d'honneur, d'ouvrir une porte avec amour, c'est-à-dire je fais attention à la manière dont j'ouvre la porte. Hein, je lui fais attention. Je l'imagine qu'il passe aussi avec moi, Jésus, parce qu'il est à côté de moi. Voilà. Ça hâte la venue du Seigneur, ça mérite le purgatoire. Et si vous l'attribuez à une âme du purgatoire, ça la soulage. Il n'est pas demandé d'ajouter des prières. L'âme en question dans le manuscrit du purgatoire, elle ne cesse de répéter « Je ne te demande rien d'autre pour me soulager que des actes d'amour. » Une application à ton devoir d'État. Mesdames, bien faire la cuisine. Pas pour votre satisfaction, mais pour réjouir peut-être l'estomac de vos maris, mais surtout pour faire plaisir à Jésus. Ça soulage une âme du purgatoire. C'est pas qu'elle est contre les prières vocales qu'on énumère, mais il faut bien avouer, on donne quand même bonne conscience. Quoi. C'est ce qu'on va faire par amour. Seule la monnaie de l'amour rachète les âmes du purgatoire, soulage une âme du purgatoire. Alors nous, en tant que garde d'honneur, on est de plein pied, quoi, hein, on est bien à l'aise là-dedans. Mais faut-il encore y penser? Alors, pour introduire le sujet qui va m'occuper après, donc avec vous, donc il y a cet abîme d'humilité, qu'est-ce que l'orgueil? Et du coup, Sainte Marguerite Marie avait, elle les appelait ses âmes souffrantes. Hein, elle était souvent sollicitée par les âmes du purgatoire, pour qu'elles aident, les aident à en être libérées. Alors là, je vous raconte quelque chose qui est assez connu chez elle, mais qui est toujours assez, en tout cas qui est poignant. Alors, mais le monde des âmes saintes est aussi celui du purgatoire. Ce sont là certes des âmes souffrantes, expiant leurs fautes, passées au feu de l'amour rigoureux de Dieu. N'empêche que ce sont des âmes de Dieu, et celui dans sa miséricorde va demander à Marguerite Marie de les aider à conquérir plus rapidement les joies célestes. Elle avait d'ailleurs coutume de prier pour elles. Mais un jour qu'elle voulait le faire davantage sans y être autorisée, celles-ci l'environnèrent en se plaignant de ce qu'elle les frappait. Elle n'avait pas l'obéissance de faire plus, et du coup ça faisait l'inverse aux âmes du purgatoire. Nous voyons d'abord un bénédictin de Paray s'adresser à elle. Il l'a confessé une fois et l'a ordonné de communier. Voilà pourquoi le Seigneur lui permet d'implorer notre saint pour avoir soulagement de ses âmes. Il lui apparaît en effet comme une personne tout en feu, et l'ardeur dont il brûle est telle qu'il semble à Marguerite Marie qu'elle brûle aussi. Il lui demande d'offrir pour lui 3 mois durant tout ce qu'elle pourra faire et offrir. Ce que la sainte promet en ayant obtenu la permission de sa supérieure. La cause de ses souffrances, lui explique-t-il, ça c'est intéressant, c'est d'avoir préféré son propre intérêt à la gloire de Dieu, par trop d'attache à sa réputation. C'est aussi trop d'affection naturelle pour les créatures et les trop nombreux témoignages qu'il en aura donnés dans les entretiens spirituels, car cela déplaît beaucoup à Dieu. Marguerite Marie souffrit pendant 3 mois pour ce religieux des peines inexprimables. Sans cesse, elle le voyait tout en feu à ses côtés. Au bout de ce temps, elle l'aperçut tout comblé de joie et de gloire, qui s'en allait jouir du bonheur éternel. Il remercia notre sainte et lui dit qu'il la protégerait devant Dieu. Celle-ci était malade, mais comme sa souffrance cessa avec celle du moine, elle fut bientôt guérie. Voilà. Alors, c'est le témoignage de toutes les dames du purgatoire, et c'est fort intéressé d'en avoir la dévotion. C'est que quand vous délivrez une âme du purgatoire, le moine, regardez, il a souci de rendre. Elles ne peuvent plus rien pour elles, les âmes souffrantes du purgatoire. Donc elles mendient, en fait, contre nos actes de charité. Elles mendient votre attention à la Sainte Messe, de les plonger dans les mérites du Rédempteur. C'est la charité par excellence. Vous leur donnez, elles vous rendront. Voilà, soit par une protection, vous pouvez leur confier vos soucis, vos difficultés dans la vie spirituelle comme matérielle, elles ont bon souci de rendre. Alors si je reviens au petit moine, il est au purgatoire parce que tout ce qu'il a pu faire en tant que prédicateur, en tant que service de Dieu, il y cherchait son intérêt personnel, ce qu'on appelle la vaine gloire. Voilà, il se gargarisait, on va dire, de toutes ses paroles, il les utilisait pour lui, pour sa gloire à lui, pour avoir une place dans les cœurs des créatures. Et aussi, ça revient souvent, ça, dans l'amour du cœur de Jésus vis-à-vis de nos âmes, c'est qu'il est à l'étroit dans nos âmes, parce que qu'est-ce qu'il y trouve ? Trop d'amour attaché, on va dire, trop d'amour affecté aux choses de la terre et entre autres à la créature. On aime la créature pour elle-même, pour ce qu'elle va me donner comme joie, comme satisfaction. On a besoin, et c'est vrai, quand c'est pas juste et c'est péché, mais d'être aimé par la créature, aimé par les siens. Alors vous allez me dire, du coup il faut plus aimer notre prochain, c'est en contradiction par rapport à l'évangile. Alors la subtilité, elle est dans aimer son prochain en vue de Dieu. Il est péché, ça devient péché, et ça peine le cœur de Jésus, quand on aime la créature pour soi-même. Voilà. Je l'aime dans l'intérêt qu'elle me donne quelque chose, qu'elle me rende l'affection. Et ça, c'est un esclavage. On est dans l'attente de recevoir. Je ne suis pas là pour faire l'accompagnement de couple, mais en tout cas, c'est très présent dans ces personnalités qui sont mal construites aujourd'hui d'attendre de son mari l'amour qu'on n'a pas eu de son papa, ou le mari attendre l'amour de sa femme, celui de sa mère. Et du coup, ça crée des grosses tensions dans un couple. On doit s'entreporter dans le mariage, on doit aimer son conjoint en vue de Dieu. On ne doit pas s'arrêter à la personne. On la rend heureuse parce qu'on rend heureux Dieu. Et c'est ça le mariage chrétien. Dans une vie contemplative où on se tient fermé derrière nos grilles, donc pas possibilité pour d'aller au coiffeur, chez le coiffeur, pour s'égayer l'esprit quand ça va moins bien, eh bien, on ne doit pas aimer sa sœur. Parce qu'en plus on ne s'est pas choisi, donc c'est loin, c'est pas toujours simple, on va dire, les éducations sont différentes, les milieux d'où on vient sont différents. En fait, on s'attache à sa sœur, pas parce qu'elle va nous rendre un service, pas non plus parce qu'on a les mêmes sujets d'intérêt. Ah, elle a la même éducation que moi, on vient de la même, par exemple, de la même ville, où on a fait les mêmes études, on a des points en commun, pas du tout. On l'aime parce que on voit en elle le temple de Dieu. On voit Dieu en elle. Voilà. Alors, c'est sûr que jusqu'à maintenant, c'est un chemin de purification, de détachement vis-à-vis de l'amour humain. C'est-à-dire que si je tiens la sœur ou mon conjoint ou mes enfants responsable de mes difficultés, c'est-à-dire que j'ai une petite peine et je fais porter la responsabilité à mon entourage, c'est sûr que là, je vais m'attacher de façon démesurée à la personne. Tandis que si j'utilise la personne pour m'aider à monter vers Dieu, je ne vais pas m'arrêter à la créature. Je la vois comme un tremplin. Et du coup, on passe hein, de l'amour captatif à l'amour oblatif. Hein. Et ça, ça demande, c'est certain, une purification. Et il y aura des jours avec et il y aura des jours sans. C'est-à-dire qu'il faudra accepter que qu'il y a des jours où j'attends un sourire de la personne qui habite avec moi, elle ne me le donne pas au moment où je l'attends. Ce n'est pas qu'elle me fasse la tête, mais moi je suis dans l'attente. Et en général, elle ne répond jamais à mon attente, jamais. Et ça, ça fait mal. Et c'est comme ça qu'on est purifié de cet amour de la créature. Donc on est quand même loin du discours « il ne faut plus aimer son père et sa mère ». Ce n'est pas ça. C'est est-ce que ma femme, est-ce que mes enfants par exemple, est-ce que ma sœur avec qui je vis prend la place de Dieu? Est-ce que tous mes prochains, on va dire, ceux qui sont les plus proches dans mon travail, prennent la place de Dieu? Est-ce que j'attends Dieu ce que je dois normalement attendre d'eux? Est-ce que j'attends ça de Dieu? Vous voyez, c'est toujours l'histoire du curseur. Voilà. Ceci dit, c'est quand même une place hein, qu'il nous faut en tout cas donner à Dieu. Sinon, c'est nous qui sommes les plus malheureux. Alors, je vais donc, après avoir fait cette petite parenthèse qui a quand même duré une petite demi-heure, je ne vais pas faire court, eh bien, on va donc reparler, en tout cas continuer de parler de l'abîme d'humilité. Et la dernière fois, si vous vous rappelez, j'avais vu avec vous le péché de Lucifer qui nous avait occupé sur quelque chose fort intéressant. Alors, j'ai donc parlé d'une de vos demandes à notre sœur qui met en ligne la formation, et elle a dû mettre en ligne, quand vous allez sur la formation, vous cliquez, je ne suis pas allée voir, mais vous cliquez et vous trouvez le texte que j'ai cité, qui était quand même dense. Donc j'ai pas eu besoin de la technique au service de l'homme, j'ai pas eu besoin de faire la photocopie. Alors là, je vous propose, il sera moins dense. Donc on avait vu un péché de Lucifer, de voir aujourd'hui le péché originel, le péché de nos premiers parents, toujours cité par le même auteur, Monsieur Doja, donc toujours cette complexité un petit peu du vocabulaire hein, qui peut un petit peu nous tenir un petit peu à l'écart, mais voilà, en tout cas avec la grâce de Dieu, on va essayer de rentrer dedans. Et parce que c'est intéressant de voir que ce péché d'Adam et d'Ève nous fragilise aujourd'hui. Hein, on est marqué par ce péché originel. Hein, nous fragilise dans notre volonté et dans notre intelligence. Voilà. Et dans le combat spirituel, c'est-à-dire que dans tout ce qui va garder le péché d'orgueil, c'est sûr qu'on aura tendance, si on ne travaille pas sur soi, si on ne prend pas les moyens en tout cas, de se plonger dans l'abîme d'humilité qu'est le cœur de Jésus, on va avoir les mêmes réflexes que nos premiers parents qui ont, eux, eu le même réflexe que Lucifer. C'est la copie-collée, hein, le péché originel de celui de Lucifer. Donc si on n'a pas cette attention, c'est sûr qu'on va faire comme le bon moine, eh bien on va préférer la créature au créateur. Toutes les paroles qu'on va dire, c'est si je peux, à la sortie de par exemple d'un rendez-vous, me gargariser de tous les honneurs qui vont m'être dits. Hein, il faut savoir, notre saint fondateur ne supportait pas les honneurs, ne supportait pas qu'on lui dise qu'il était le meilleur. Et aujourd'hui, quand on nous dit l'inverse, on a tendance à mal prendre la chose. Hein, et pourtant, on dit non, c'est pas moi qui ai dit, c'est pas moi qui ai fait. Par contre, comme dit notre saint fondateur, si on vous dit vous avez mal parlé, on rétorque en disant en quoi j'ai mal parlé, dites-le-moi. Vous voyez, on est très susceptible. Même dans les couvents, on s'en rend compte, hein, nous qui devons exceller en humilité, parce que c'est le fondement de la visitation, un des fondements, on voit bien que nos générations, on n'a pas été exercés hein, dans notre éducation à être contrariés sans cesse. Hein. Et celles qui nous ont précédées, elles étaient beaucoup plus souples que nous qui rentrons. Hein. On gère, très jeune, on gère vite sa vie, on a son chéquier ou dans la carte bancaire, on travaille très rapidement. Et on a une indépendance par le téléphone, par Internet. Et ceci dit, ça, 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 Ça nous donne cette facilité que quand on nous fait une remarque, on regarde de haut et en quoi vous avez le droit de me faire une remarque. Et on voit la remarque comme quelque chose de négatif. Voilà. Alors que la remarque, moi qui suis maîtresse, donc qui forme les jeunes, je suis plutôt dans le positif. Moi, je me dis, ça ne sert à rien de briser, ça ne construit rien du tout. Mais de montrer à la jeune que faire une remarque, c'est quelque chose qui va l'élever plutôt que la rabaisser. Du coup, la remarque, elle est perçue comme quelque chose de bien. Et à l'intérieur de soi, on n'est plus dans... Quand on fait une remarque, ça me ferme, ça me pique dans mon orgueil. Si je l'accueille de façon ouverte, bah du coup, je suis dans « Ah, c'est pour mon bien ». Donc, bah là, on a dépassé la blessure, la petite piqûre de la susceptibilité de l'amour propre, vous voyez. Donc, et dans nos vies, c'est l'enjeu qu'il y a en comprenant le péché d'Adam et puis bah, nos comportements, parce que ça, les remarques, vous allez, comme moi, même si vous n'êtes pas dans un couvent, vous en aurez toujours, toujours. Hein. Toujours pour au travail, les enfants, le mari, la belle-mère, la grand-mère, enfin voilà, au travail. Alors, le péché originel. Alors, si Lucifer voulut entraîner les hommes dans sa révolte, et ce fut la scène de la tentation, il y avait un arbre symbolique que Dieu avait nommé arbre de la science du bien et du mal. Et l'homme ne devait pas manger du fruit symbolique de cet arbre, qui comme une sorte de sacrement, alors le sacrement c'est un signe sensible d'une réalité spirituelle. Et c'est aujourd'hui le sacrement de l'Eucharistie, c'est ça, hein, le sacrement du baptême, tous les sacrements rendent visible une réalité spirituelle. Pouvait nommer cette science du bien et du mal dont il était le signe sensible, cet arbre. Que faut-il donc entendre par cette science du bien et du mal à laquelle l'homme ne devait pas goûter? Il ne s'agit évidemment pas de la connaissance ou de la pratique de la morale. Il s'agit de la science expérimentale, de l'expérience que l'homme acquiert du mal comme du bien en pratiquant le mal. Il semble à la créature que sa liberté est limitée si elle ne pratique que le bien et que cette liberté n'aura un champ indéfini qu'en se soustrayant à tout ordre et à toute loi et en pratiquant le mal comme le bien. Celui qui ne fait que le bien ne connaît pas le mal, par expérience, comme une chose qu'il a pratiquée, d'où le désir de pratiquer le mal pour savoir par expérience ce que c'est, pour en connaître le goût, pour arriver à ce fruit de la faute que décrit si bien saint Jean Chrysostome en disant « Ils connurent par expérience l'abîme du péché ». Et c'est pourquoi Lucifer tenta Ève en lui disant « Si vous mangez du fruit de l'arbre, de la science du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. » Et le fruit apparut d'un aspect qui excitait le désir. Voici encore le désir d'être comme Dieu. Adam et Ève étaient réellement divinisés par la grâce, mais ils voulurent être comme Dieu en étant indépendants comme lui, en échappant à la condition de créature soumise à une loi et à un ordre pour avoir une liberté illimitée comme Dieu, et en prenant la liberté de faire le mal comme le bien. Ils singeront la liberté illimitée de Dieu. Ça, c'est ce qu'on fait. Hein. On singe Dieu dans tout ce qu'on fait. Terrible illusion, car si la liberté de Dieu est illimitée, c'est parce que le bien que sa toute-puissance peut réaliser est illimité. Le mal limite, borne et diminue la créature qui le pratique en la détournant de sa perfection. La créature ne s'accroît, ne grandit en science et en liberté qu'en faisant le bien, qui l'oriente vers sa perfection. On est fait pour le bien et le bien suprême, c'est Dieu. Connaître le mal en le pratiquant, c'est pour elle connaître sa misère. Quand Ève puis Adam, sur la demande de celle-ci, eurent cédé à la tentation, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent leur misère. Voilà, ils se virent tout nus. Le péché d'Adam et Ève fut d'abord un péché d'orgueil et de naturalisme analogue à celui de Lucifer que nous avions décrit la dernière fois. Il n'en pouvait être autrement puisqu'il possédait à la fois la grâce et la nature intègre. Alors, je fais une petite parenthèse, ça va juste vous donner envie. Qu'est-ce que la nature intègre ? Conférait à Adam un certain nombre de privilèges. D'abord, la maîtrise parfaite et sans difficulté de la raison sur les sens. C'est quand même intéressant, hein ? Et puis, combat, hein ? Et bon, c'est, voilà, ça, on l'a perdu, hein ? De l'esprit sur la chair avec l'assurance d'éviter toute erreur et tout péché contre sa nature. Puis, l'empire absolu sur les animaux auxquels Adam commandait et surtout l'univers matériel. Enfin, l'immortalité du corps qui ne devait ni mourir, ni connaître la maladie et la douleur. Voilà. Ah, chers parents, hein. Adam et Ève se complurent dans la perfection et la beauté de leur nature. Ils s'y conclurent avec excès au point de trouver du déplaisir dans l'humilité et la reconnaissance avec laquelle il fallait recevoir les dons de Dieu, au point de ne plus vouloir être dépendant de Dieu en recevant de sa généreuse tendresse un don qu'ils ne devaient pas à leur capacité naturelle. Toujours l'histoire de la dépendance. Ils voulurent se passer de Dieu et savoir ce qu'ils pouvaient faire par eux-mêmes. Quitte à être des apprentis sorciers. Ils voulurent être indépendants comme Dieu et de là le désir de goûter à la pratique du mal grâce aux fruits de l'arbre. Lucifer était vainqueur, il avait séduit Ève et par elle Adam, et le père et la mère de toute l'humanité avaient commis le péché. Et ils connurent leur misère car cette révolte contre Dieu leur fit perdre à la fois l'état de grâce et la nature intègre. Ils avaient voulu une indépendance et une liberté sans limite pour être comme des dieux, et ils cessèrent d'être divinisés par la grâce, et ils connurent leurs bornes et leurs limites. Voilà. Hein, c'est intéressant, hein, j'ai pas voulu aller plus loin, parce que je pense qu'on a ce qu'il faut. Pour comprendre le péché de nos premiers parents, et puis à la fois, ben voilà, là, cette marque, hein, qui nous blesse aujourd'hui, hein, et avec laquelle, comment dirais-je, il nous faut avancer dans le chemin de la perfection et d'être zélés gardes d'honneur. C'est pas. On a beau faire, elle sera toujours là. Et aujourd'hui, en tout cas pour certains théologiens, c'est de nier, hein, cette blessure. Du péché originel. Non, aujourd'hui, il faut faire avec, on va dire. Hein. C'est notre héritage. Et c'est avec cet héritage qu'on arrivera à la sainteté. Donc, d'où l'importance de mettre en place, on va dire, le combat spirituel. Donc là, moi, je vous proposais de vous abîmer dans le cœur de Jésus quand il y a péché d'orgueil. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est de comprendre, mais qu'est-ce que c'est que l'orgueil à travers le péché de Lucifer et le péché de nos premiers parents, mais de saisir que quand on fait le mal, hein, alors, alors c'est sûr que notre volonté et notre intelligence, parfois, elle est comment dirais-je, voilée dans sa manière de percevoir le mal ou le bien. Et quand on a conscience de faire un mal, eh bien, ça va toujours nous diminuer devant Dieu. Hein. Donc, c'est pas. Aujourd'hui, il faut bien se le dire, il faut beaucoup de courage pour refuser Dieu de ne pas faire le mal. Hein. De tendre la main à quelqu'un qui est abandonné sur le chemin, pour nous, c'est un bien, pour beaucoup, c'est un mal. Aujourd'hui, on a changé le sens, c'est-à-dire que le rouge est devenu noir, le noir est devenu rouge, hein, le bien est devenu mal. et le mal est devenu un bien. Donc il faut du courage, hein. Il faut surtout la lumière du Saint-Esprit, et on va la demander aussi pour, et il nous faut hein, tous les jours dans nos vies, quand on fait nos petits examens de conscience, de demander à voir, de demander à voir si c'est un vrai péché d'orgueil, ou si c'est, on va dire, un trait de mon tempérament, voilà, de la timidité. La timidité sera jamais, on va le voir, la timidité, c'est pas l'humilité. Hein. Et des paroles dégoulinantes, moi j'appelle ça comme ça, dégoulinantes d'humilité, c'est pas de l'humilité. Hein. Et donc, c'est, on peut, comment dirais-je, se cacher derrière des apparences. Hein. Et être dans un orgueil, donc dans une vaine gloire, un amour de soi, un amour de désirer d'être reconnu dans ce qu'on fait, et qui nous éloigne de Dieu. Hein. Et c'est un mal pour notre âme. Hein. Alors, l'écriture, alors ça, le texte, que autant le premier texte que je vous ai dit, c'est le père Monsieur Doja, parce que c'est un laïc. Monsieur Doja, et là, aujourd'hui, et puis la fois prochaine, on terminera l'année avec ce thème, c'est le père Garrigou Lagrange, un dominicain. Alors, l'Écriture dit à plusieurs reprises que l'orgueil est le commencement de tout péché, parce qu'il écarte l'humble soumission et l'obéissance de la créature à Dieu. Le péché du premier homme fut un péché d'orgueil, et on vient de le voir, le désir de la science du bien et du mal pour pouvoir se conduire seul, sans avoir à obéir, sans dépendre. Hein. Pour saint Thomas d'Aquin, l'orgueil est plus qu'un péché capital. C'est la source des péchés capitaux, et particulièrement de la vaine-gloire, c'est l'amour de soi. Alors on la trouve aussi appelée la philotie. Selon les pères de l'Église, fins connaisseurs de l'âme humaine, la philotie est cet amour orgueilleux de soi à l'origine du péché originel commis par le premier couple. Alors c'est une grille pour établir son examen de conscience. Voilà. Alors, qui est un des premiers effets? La vaine gloire, c'est le premier effet de l'orgueil. Plusieurs se trompent, du moins pratiquement, sur la vraie nature de l'orgueil et peuvent par suite approuver, sans le vouloir, la fausse humilité, qui est une forme de l'orgueil caché. Plus dangereux, dit-il, notre bon père, que celui qui s'étale et devient ridicule. C'est sûr qu'il y a des personnes, on sait très bien que, ils sont dedans, ça se voit. Bon, voilà. Après, c'est un chemin pour eux. Moi, j'enferme personne là-dedans. Ça me regarde pas. Et puis, plus je vais, moi, plus je me dis, il faut porter aucun jugement. D'abord, mais qui on est pour le faire? On n'est pas Dieu. Et puis, on n'a pas toutes les données. Hein. Pour enfermer quelqu'un pour dire il a péché, il faudrait avoir la possibilité de savoir si sa volonté est prise. Qui peut le dire, ça? Personne. Et on a péché que dans la mesure où la volonté a décidé délibérément, avec son intelligence éclairée par toutes les données, pour poser cet acte libre de dire je pêche. Dire comme ça, si vous voyez quelqu'un faire un acte, il faut être fort pour pouvoir dire « Ah, je vois bien que sa volonté, il est dans la décision volontaire de faire l'acte. » Personne ne peut le dire, il n'y a que Dieu. Et il y a péché que s'il y a la volonté. C'est-à-dire qu'une femme qui avorte, une jeune fille qui avorte, qui ne sait pas que c'est un être humain qu'elle a dans son sein, que ça, c'est pas un péché. Il faut qu'elle ait conscience de tuer quelqu'un. Voilà. Alors, par contre, l'avortement est un péché. Mais la personne qui le fait, je ne peux pas dire qu'elle pêche. je n'en sais rien. Voyez, mettez ça pour tous les péchés. En fait, qui peut dire qu'elle a péché? C'est la personne, quand elle sera amenée, par la grâce de Dieu, à prendre conscience de tel et tel événement et tel élément qui lui ouvriront sa conscience, son intelligence. De fait, ça, c'était un péché. Voilà. Combien disent, après, moi j'en connais, la première, d'avoir dans le monde fait des choses, j'étais pas consciente que c'était un péché. Et arriver ici, parce que voilà, on est instruit, on passe son temps à étudier, de fait, je faisais ça quand j'étais dans le monde, je faisais un péché. Non, parce que je ne savais pas que c'était péché. Vous voyez ? Par contre, Dieu, dans sa miséricorde, me donne aujourd'hui la lumière. Donc, si on est vraiment dans cette charité, cet entreportage, cette charité pure d'aider son prochain, c'est de se sanctifier soi-même pour donner la lumière aux autres. Voilà. Pas parce qu'on va faire des grands discours, parce que la manière dont on va avancer, par exemple, moi j'aimais bien la vitesse dans le monde, je roulais assez vite. Et du coup, je n'avais pas conscience que c'était un péché de rouler vite. Et c'est sûr que si on m'avait enseigné que dépasser la limite autorisée sur la route était un péché, le fait de me tenir à 90, j'aurais été un témoignage de ma foi, si vous voulez. Et là, sans le savoir, j'étais un contre-témoignage. Donc la manière dont on vit, on aide notre frère à côté et qui lui donne du coup la lumière à son intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Sans dire obligatoirement faire des discours. D'où la manière dont on vit est importante. Alors la difficulté qu'on trouve à déterminer exactement la vraie nature de l'orgueil provient de ce qui s'oppose non pas seulement à l'humilité, mais aussi à la magnanimité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? C'est la vertu de clémence, poussant à agir avec un désintéressement vis-à-vis du danger. C'est pas l'humilité, mais voilà, c'est une vertu connexe, qui est parfois confondue avec lui. Nous devons être attentifs à ne pas confondre pratiquement la magnanimité des autres avec la superbe. Alors la superbe, c'est quoi? C'est l'amour désordonné de soi, formé à partir du préfixe latin super. Il désigne ce qui se trouve au-dessus. Super, je regarde les autres par-dessus. Voilà. Ni notre pusillanimité, alors qu'est-ce que ça veut dire? Une excessive timidité, manquant d'audace et de courage, craint la responsabilité. Alors, des fois, on entend « Oh non, pas moi, je vous laisse la place, allez-y. » En fait, ce n'est pas l'humilité. On a peur de prendre des responsabilités. Voyez ? Donc, ni notre pusillanimité ou timidité avec l'humilité véritable. Et quelquefois, il faut l'inspiration du don de conseil pour bien discerner pratiquement ces choses, pour voir comment l'âme vraiment humble doit être magnanime. Mais l'âme magnanime n'est pas humble. Par contre, l'humble doit être magnanime, c'est-à-dire qu'il doit être clément, indulgent. Et en quoi la fausse humilité se distingue de la vraie? Les jansénistes virent un manque d'humilité dans le désir de la communion fréquente. Voilà. Et nous, on y a vu un péché d'orgueil. Voilà. Ne pas approcher de la sainte table tous les jours parce qu'on ne sera jamais assez pur, c'est de l'orgueil. Voilà. Saint Thomas d'Aquin, toujours, qui fut très humble et magnanime, détermina fort bien la définition exacte de ces deux vertus qui doivent s'unir et celle des défauts qui lui sont contraires. Il définit l'orgueil, l'amour désordonné de notre propre excellence. Ça vous rappelle pas quelque chose qu'on vient de dire? Voilà. Le superbe. Rien que superbe, quand vous le dites, vous êtes obligé de vous rehausser. Je crois que tout est dit. En effet, paraît supérieur à ce qu'il est réellement. Alors, je suis obligée, c'est comme je... C'est pas... Voilà. Il y a de la fausseté dans sa vie. Cet amour désordonné de notre propre excellence est dans cette partie de la sensibilité qui s'appelle l'irascible. Lorsqu'il porte sur les biens sensibles, par exemple, chez celui qui s'enorgueillit de sa force physique. C'est subtil, hein? J'ai une bonne santé, j'en suis fière. Mais comment il peut être fier de sa santé alors qu'elle ne vient pas de lui? Elle n'est pas à lui, sa santé. C'est moi qui vous ai fait, vous êtes à moi. Maintenant, qui dit que sa santé, c'est Jésus? Toutes vos cellules vivent parce que Jésus le veut. Si on n'est pas dans cette démarche de se recevoir de Dieu, c'est sûr que les biens qui nous sont donnés sont à nous. Donc on fait comme les premiers parents, on s'enorgueillit de notre indépendance. C'est ma santé, je fais ce que je veux. Ben non. Il est dans la volonté, ce péché, lorsqu'il se porte sur des biens d'ordre intellectuel, spirituel. On parle très peu de l'orgueil spirituel et l'orgueil intellectuel. On pense juste l'orgueil, celui qui s'étale. Mais ça va plus loin que ça. Ce défaut de la volonté suppose que notre intelligence considère plus qu'il ne faut nos propres mérites et les insuffisances d'autrui, qu'elle exagère pour nous élever au-dessus d'eux. Cet amour de notre propre excellence est dit désordonné en ce sens qu'il est contraire à la droite raison et à la loi divine. Alors la loi divine, on n'en parle plus non plus. La loi divine, c'est laquelle? C'est celle que je vous ai évoquée au début. C'est la vie éternelle. Voilà. Pour des gens comme Garrigou Lagrange, saint Thomas d'Aquin, quand vous lisez ces livres, moi ça m'éblouit. Il n'y avait qu'un seul objectif pour l'homme, la vie éternelle. Il n'y avait que ça qui les occupait. Aujourd'hui, moi j'entends, ça existe encore la vie éternelle. Ben oui, ça existe encore. Mais heureusement, quoi, parce que... Oh, voilà. Mais c'est des chrétiens, hein, c'est pas chez les païens. Il s'oppose directement à l'humble soumission de la créature défectible et déficiente devant la grandeur de Dieu. Il est fort différent du légitime désir des grandes choses conformes à notre vocation. Un soldat magnanime peut et doit désirer la victoire pour son pays, sans qu'il y ait d'orgueil en cela. Tandis que l'orgueilleux désire immodérément sa propre excellence, le magnanime se dévoue à une grande cause supérieure à lui et il accepte d'avance toutes les humiliations pour arriver à ce qui est pour lui l'accomplissement d'un grand devoir. L'orgueil est donc, comme le dit saint Augustin, un amour pervers de la grandeur. Il nous porte à imiter Dieu à contresens. En ne supportant pas l'égalité de nos semblables. Dans nos conversations, il faut toujours qu'on rabaisse. Et en voulant leur imposer notre nomination, au lieu de vivre avec eux dans une humble soumission à la loi divine. Dans nos comportements, on va commencer le temps de l'Avent, puis je vais dire juste un petit mot là-dessus, et donc je vais m'arrêter maintenant là. Mais on va avoir des repas de famille, vous allez inviter, hein, c'est l'occasion, les périodes de Noël, hein, de recevoir les premiers jours de l'année, 2024, comment je vais me placer, comment je vais me situer avec les uns et les autres, comment je vais aborder les différents sujets de société, voilà. Est-ce que je vais passer toutes mes conversations passaient mon temps à critiquer, à rabattre, voilà, à parler en négatif. Voilà. On peut se retrouver et pas parler de la société. Voilà. Parler de belles choses, de bonnes choses. C'est possible. Hein. Nous, on y est un peu contraintes, enfin contraintes, heureusement contraintes, nos récréations. C'est amusant hein, de se... On a deux demi-heures de récréation dans la journée. On ne voit pas la télé. Toutes les sœurs n'ont pas des parloirs. En tout cas, on n'a pas des parloirs tous les jours. Donc, on n'a pas d'apport extérieur de conversation, de nouvelles. Hein. Donc, nos récréations, vous allez dire, bah, de quoi vous parlez au fait? Ah oui, de quoi on parle? On ne parle pas du bon Dieu obligatoirement. On parle en somme, alors on en parle bien sûr, mais on parle de nos lectures. Ah, nos lectures. Mais aujourd'hui, le livre, la vente du livre, voilà, ça chute. Pourquoi ce n'est pas l'occasion pendant l'Avent de trouver un bon livre voilà, qui nous fasse cheminer vers la naissance du Christ? Alors ça, je me donne une belle porte là pour vous parler un tout petit peu de l'Avent. Donc il va commencer ce temps liturgique hein, où on va désirer la venue. Il y a trois venues du Christ. Hein. Voilà, il est venu, le Verbe s'est fait chair. Hein. Noël, la naissance du cœur de Jésus. Voilà, disait une de nos sœurs, Marie-Angélica, une sœur du Mexique qui est la cause est introduite. Pour elle, c'était la naissance du cœur de Jésus. Voilà. La deuxième venue, cette naissance hein, dans notre humanité qui vient la sauver, il vient aussi naître dans notre cœur. Voilà. La présence du Christ en nous. Voilà. Est-ce qu'on va la désirer? Est-ce qu'on la désire toujours plus? Et quand je vous parlais de l'orgueil, dans ma prière, je me disais, comment je vais faire le lien avec l'avant? Alors je demande à Jésus, et qu'est-ce qui me vient? Ben, il faut faire de la place. Donc tous les péchés d'orgueil pendant l'Avent, je m'abîme dans le cœur de Jésus, l'abîme d'humilité, pour lui faire de la place. Ça c'est la meilleure des préparations de l'Avent. Parce que c'est pas, même si par le passé, le 1er siècle, 15e siècle, 5e siècle pardon, ça a commencé, cette notion de l'Avent, c'était très marqué par la pénitence. Petit à petit, ça va s'estomper, c'est le carême hein, qui est le plus marqué par la pénitence. Ceci dit, nous voyez, on n'aura pas de parloir pendant l'Avent. Donc, on n'a pas de parloir pendant le carême, mais l'avant aussi. Donc, il y a quand même une petite marque de pénitence. Pourquoi? Pour se mettre dans cette disposition qu'est la Vierge Marie de l'attendre, d'attendre le Sauveur. Donc, Marie, imaginez la Vierge, comment elle a préparé son cœur, mais pas uniquement son cœur, le côté matériel de la naissance aussi. Et ils sont partis quand même, il n'y avait rien de prêt. Hein. Eh bien, cette disposition intérieure, comment, avec l'histoire du péché d'orgueil, je vais préparer sa venue. Voilà. Aussi simple que ça. Donc cette attention à mes conversations, à mes prises de position, à mes pensées. Voilà. Comment je me place en esprit, pas obligatoirement par la parole, mais en esprit vis-à-vis des autres, de mes enfants. Celui que j'aime moins bien. Je ne peux pas me l'expliquer, c'est pas péché, mais je l'aime moins bien. Voilà, et la dernière venue, et là on l'attend, voilà, c'est la parousie, le retour du Christ. Voilà. Hein? Est-ce qu'on dit nos prières, enfin le pater, est-ce qu'on le dit dans cette, voilà, qu'il règne, quand est-ce qu'il viendra? Voilà. Est-ce qu'on le désire? Est-ce qu'on désire sa venue? Alors beaucoup, de toute façon je ne le verrai pas, quoi. Donc, non, c'est... On doit désirer sa venue. C'est pour ça qu'il ne vient pas. C'est qu'on ne désire pas. Voilà. Donc, trois désirs. Un moyen, parce que souvent je vous dis, je vous ai déjà dit ça pour le carême, mais on cherche toujours des mortifications sur je ne mange pas de chocolat pendant le carême, je ne regarde pas Internet pendant le carême, alors pendant l'Avent, je fais une copie-collée. Non, ce n'est pas ça la mortification. Hein. C'est. Est-ce que j'ai un cœur disposé? Est-ce que j'ai un cœur qui va lui plaire à Jésus? Est-ce que quand il va naître le 25, 25 décembre, il sera content de moi. Ah bon, parce que Dieu a besoin d'être content de nous? Eh bien oui. Est-ce que vous êtes content de vous? Est-ce que ça ne vous fait pas de la joie quand vous êtes content de vous? Ben si. Ben imaginez pour Dieu, il vous a créé. Ce pourquoi il vous a fait, quand vous correspondez, vous imaginez la joie de Dieu? Et il nous a fait pour lui. Il nous a fait pour le recevoir le 25 décembre et ça tous les jours. Donc comment je vais, on va dire, protéger cette présence que je reçois et qui se continue à travers l'Eucharistie tous les jours, comment je vais la protéger de mon péché d'orgueil? Alors demander à l'Esprit Saint pendant tout ce temps liturgique de me montrer mon péché d'orgueil, parce qu'on a bien vu, c'est subtil. Voilà, je m'arrête là. Juste, j'avais la dernière fois omis d'apporter les feuilles avec les dates exactes. Alors, je me suis un peu convertie, je les ai apportées. Et du coup, donc je vous reconfie à votre prière les 12 et 13 janvier 2024 à Paray-le-Monial, où seront réunis tous les directeurs, zélateurs et coordinateurs des centres de France. Et donc, comme je le disais, c'est Monsieur Tapie qui me représentera à cette rencontre. Par contre, il ira avec chacun d'entre nous. Hein. Je vais préparer un petit topo sur les chiffres, ce que vit la garde d'honneur, en tout cas à la visitation de Nantes, pour qu'il en fasse écho. Et puis tout ça servira, en somme, à Rome de percevoir et de bien voir la garde d'honneur, ses statuts et son fondement, on va dire. Alors je vais laisser ça sur le bord de la petite tablette là si vous voulez voir, il y a même le programme et je vous confie en tout cas à votre prière aussi. C'est donc le père Olivier Barnet qui est le directeur national de la garde d'honneur. C'est un jeune prêtre de Bourg-en-Bresse, hein, donc qui ne sûrement pas manquer de charge et qui a accepté en plus ce service et on sait qu'aujourd'hui rien n'est simple. Et puis comme disait Sainte Marguerite Marie, tout ce qui est œuvre du Sacré-Cœur, en général, il y a toujours deux, trois bâtons qui vous tombent dessus. Il y a toujours une levée de bouclier. Je vous revois en somme très rapidement, parce que la date a été changée pour des raisons internes de la communauté, donc le 9 décembre. Donc comme ça, on va pouvoir, c'est bien, vous n'allez pas avoir le temps d'oublier, et on va faire la suite, on terminera en tout cas sur cet abîme, et voir, qu'est-ce que je peux faire pour m'abîmer dans l'humilité. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair, on termine sur la prière. Vous pouvez, hein, en toute simplicité. Oui.
Il y a certainement une nuance entre l'orgueil et la vanité, parce que la vanité c'est l'orgueil, mais d'après ce que vous disiez tout à l'heure, la vanité c'est plus pour nous-mêmes.
Ouais, c'est plus soi.
Ouais,
voilà. Alors c'est s'aimer soi-même, hein. C'est vrai que c'est aussi il y a moins la marque par rapport à l'orgueil sur la vanité. La vanité est moins marquée par la non-dépendance, l'excellence, on va dire, de soi. C'est plus s'aimer soi-même. C'est beaucoup on pêche dans la vanité, dans le paraître. Hein. En somme, c'est un mensonge sur soi-même, la vanité. On n'est pas dans la réalité de ce qu'on est. Et du coup, c'est péché par vanité. C'est sûr que le péché d'orgueil, il est complet. Il y a vraiment cet amour de soi désordonné, la non-dépendance, et puis cette excellence à être à l'origine de tout. Hein, de soi-même, mais de tout. Hein. Donc tous les dons, c'est nous qui en sommes à l'origine, donc du coup on en fait ce qu'on veut. Donc du coup, sa vie, sa mort, son corps, tout ce qu'il nous a donné. Et avec ça, on supplante Dieu. Hein. C'est sûr, hein, on voit bien, ça crève l'écran. C'est quand même celui qui occupe aujourd'hui le devant de la scène. C'est clair. Moi, j'avoue, ça m'ouvre de vous préparer ces formations. Je, 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 oui, je, rends grâce parce que je me dis, quand je vois le monde, même si j'ai un retrait et je suis loin d'aller dans les de lire tous les journaux parce que enfin, pour moi tout ça c'est fomenté, donc ça ne me sert à rien. Et je préfère lire dans le cœur de Jésus, j'y comprends beaucoup plus de choses. Et ceci dit, il disait à Sainte Marguerite Marie, lis, tu apprendras tout au livre de mon cœur. Le cœur de Jésus est un livre. Si c'est un abîme, c'est un livre. Et c'est sûr qu'il faut poser, toujours dans le partage des petits biens, qui est propre à la visitation, donc comme vous faites partie de la famille, eh bien, notre saint fondateur nous invitait à partager nos petits biens. Et c'est sûr qu'il m'a fallu poser un moment de ma vie spirituelle, un acte de foi, de croire que j'apprendrais plus au livre de son cœur que dans les journaux. Et du coup, c'est une vie, on va dire, qui m'a, enfin cette attitude m'a contrainte, bien sûr, amoureusement, d'aller chercher les infos dans son cœur, pas dans les journaux. Et je vous peux, alors ça, j'en fais vraiment l'expérience. J'apprends des choses des choses, on va dire, des lumières intérieures, plus dans l'oraison que dans les journaux. On n'a pas besoin d'être au courant de tout pour s'offrir. Ceci dit, mon expérience c'est la mienne. Moi, je peux que vous encourager et faites votre expérience de passer du temps avec Jésus, de lui parler de ce que vous ne comprenez pas dans le monde ou pourquoi telle attitude, et vous aurez des lumières que vous n'apprendrez pas dans les livres, dans les journaux, je veux dire, parce que les livres, moi, je suis pour la lecture des livres, reprendre la lecture de bons livres et de saints livres. Mais on attend beaucoup trop des informations du monde, comme si ça allait nous donner l'explication de la société. Mais c'est Dieu l'explication. Hein? Et ne le limitons pas à notre compréhension. Hein? Il faut poser, là, il faut marcher sur l'eau et vous ne serez pas déçus. Donc, je m'arrête là parce que je suis encore partie pour une demi-heure. Du coup, je vous souhaite un bel avant. Donc, demain, une belle journée avec le Christ roi qui règne. Parce que ça aussi, il y a une très belle encyclique à découvrir sur le Christ roi. Et dans cette encyclique, il est bien dit. Parce que nous, on est toutes désolées, enfin, vous avec moi, de voir que, de toute façon, le Christ roi, mais il règne pas quoi, dans les cœurs. Quoi. Il règne pas sur notre société parce que on efface petit à petit les marques du christianisme. Ah non, dans l'encyclique il est dit que son règne c'est son essence, comme son amour. Qu'on le veuille ou non, il règne. La créature, la création est à lui. Donc même si on ne lui donne pas cette possibilité en lui ouvrant nos cœurs, il n'a que faire, il règne, c'est son essence. Donc vive le Christ roi. Bonne fin d'après-midi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je l'ai passé. Oui, on a peut-être pas voulu. Je vous souhaite, vous voulez en aider Maria ? Oui, on n'a pas. Alors, on y va. Alors. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint Joseph, Saint Jean, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, Saint François d'Assise et Sainte Marguerite Marie. Bienheureuse Marie de Jésus de l'huile Martini. Bienheureuse Maria Gabriella et ses compagnes. Et Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernou. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon retour.